Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdou Sal et bienvenue à ce 74e épisode. Au menu cette semaine, on vous montre en fait comment préparer du poulet portugais et des pastels de nata. Aussi connu sous, on revient sur le Grand Prix du Portugal. Alors, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, c'est un départ! Bonjour ou bonsoir, peu importe où vous êtes. Très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Bulletin GP. Oui, ça m'a donné faim manger du poulet portugais, ça faisait un peu longtemps. Mais évidemment, on est de retour aussi pour nos activités parce qu'on avait fait un boycottage des réseaux sociaux après poursuivre un peu les exemples des ligues sportives en Angleterre et de quelques pilotes de Formule 1 pour un peu forcer la main aux réseaux sociaux pour agir en conséquence quand il y a des actes d'abus, de propos haineux, racistes, homophobiques, sexistes et tout. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas beaucoup, mais on espère avoir notre petite influence. Mais bon, on revient aux activités habituelles et on va revenir entre-temps sur le Grand Prix du Portugal avec mes collaborateurs habituels. On a Ana Maria Mercado Lopez. Salut Ana Maria.
Salut Adou.
Comment vas-tu?
Et ça va bien.
Super. Et on a Marc-André Fortin. Salut Marc-André.
Salut Adou.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, toi?
Ça va très bien, merci. Wow. Excellent. Alors, on disait on va essayer de faire des petits voyages dans le Québec, mais on va aller faire un petit voyage virtuel au Portugal puisque nous allons revenir sur la course qui a eu lieu le week-end dernier à Portimão. Une course qui a été remportée par Lewis Hamilton devant Max Verstappen. Valtteri Bottas complète le podium. Ensuite, on a en quatrième place Sergio Perez, Lando Norris en cinquième place, Charles Leclerc sur la Ferrari sixième, Esteban Ocon et Fernando Alonso septième et huitième respectivement, Daniel Ricciardo chez McLaren neuvième et Pierre Gasly qui complète le top 10 et ceux qui marquent des points. Le point boni revient à Valtteri Bottas dans une situation un peu inusitée en fait, avec Verstappen qui a vu son le tour le plus rapide être supprimé pour limite de vitesse. Alors, comme on faisait avant dans l'ancienne mouture, on va donner nos évaluations post-Grand Prix en fait. Donc, on va aller avec les performances du jour, contre-performances et moments cocasses. Alors, Marc-André, je vais te demander de faire tes évaluations post-Grand Prix.
Donc, en commençant, j'irai avec les meilleures performances de la fin de semaine. Moi, j'ai adoré Esteban Ocon. J'ai rarement de lancer des fleurs à Esteban Ocon, mais j'ai pas le choix en fin de semaine. Il a été pratiquement parfait dans sa Alpine. Et du regard d'un fan de Formule 1, quand on regarde la progression qu'Alpine a fait en fin de semaine, c'est quand même positif pour eux. On regarde que Ocon a débuté la course 13e, Alonso a terminé la qualification 16e et tous les deux sont entrés dans les points et sont allés chercher de gros points pour Alpine dans une fin de semaine où c'était peut-être pas très attendu.
Parfait. Et ta contre-performance de ce week-end?
Il y en a quelques-unes, ça c'est sûr. Moi, je m'attendais à bien mieux de Lance Stroll. J'ai été un peu déçu de sa qualification. Ouais. J'ai essayé de voir s'il n'a pas été dans le trafic. J'ai pas réussi à avoir l'information. Donc, il est possible qu'il ait été pris malheureusement dans le trafic. Mais sinon, tu sais, on parlait souvent de son problème de faire un bon premier tour. Cette fois-ci, ça a été complètement raté pour lui en qualification. Ricardo a fait un peu la même chose que lui, sauf qu'il a réussi à remonter la pente et réussir à obtenir deux points importants aussi pour sa McLaren. Donc, en fait, Ricardo aurait pu être aussi dans mes meilleures performances du jour. Là, je parlais d'Ocon tantôt. Je me suis mêlé. Ocon est parti de la course 6e. C'est Ricardo qui a commencé cette magnifique course 16e.
Exactement. Donc, Ricardo a même fait un très bon départ. Vraiment. Gagné 3 places dans le premier tour. Et le moment cocasse, Marc-André?
Il n'y en a pas vraiment, à part que Mazepin a réussi à avoir 2 tours de plus et a reçu une pénalité de 5 secondes. Je pense que c'est peut-être la petite chose la plus absurde qu'il y a eu dans ce Grand Prix. C'était mérité, avouons-le, mais c'est ça, c'était 5 secondes de plus sur 2 tours. Ça m'a fait rire un peu.
Ouais, disons que, et à l'inverse, son coéquipier a reçu des fleurs. Et lui a encore reçu le des pots. Donc, je ne sais pas combien de pots il va recevoir encore s'il de continue comme ça. Mais ouais,
en espérant qu'il y ait des fleurs à un moment donné.
Ouais, exactement. Parce que, à force
lui
de. On lui souhaite quand même, même si. Disons qu'il n'a pas la sympathie de tout le monde.
Raison.
Et avec raison aussi. Anna Maria, toi, tes évaluations post-Grand Prix?
Ok, mes évaluations, mais je vais commencer pour Norris.
Oui,
c'est vrai.
Oui. Je trouve que pour moi, lui, c'est comme la performance des jours, parce que oui, il était 7, il arrivait 5, mais il se battait en avant avec tous ceux qui coursaient, il était par l'arrière, c'est pas comme quand tu... Quand il arrive d'en arrière, il faut remonter la panne. Non, mais c'est plus difficile quand tu es en avant. Il faut tenir les coups. Fait que lui, il a fait une très bonne performance. Et ça montre aussi que McLaren, il a beaucoup avancé.
Oui.
Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup évalué par rapport à 2019, je dirais. Mais parce que l'année passée...
Un peu par surprise aussi, là. N'oublions pas qu'ils ont, je ne veux pas t'intéresser, on va en avoir rien, mais n'oublions pas qu'ils ont changé de moteur.
Oui,
et
c'est ça.
Et qu'il y avait beaucoup moins d'évolution possible en raison des fermetures pour ce qui est de l'amélioration entre 2019 et 2020. Donc, c'est vraiment incroyable de voir que cette voiture-là et ce que les mécanos, les ingénieurs ont pu faire avec cette voiture dans tout ce qui était ainsi.
Oui, ils ont travaillé très bien, tellement que l'Aston Martin il restait loin, comparativement à ce qu'il fait McLaren. D'un côté, c'est bon parce qu'ils n'ont pas comme la même forme de travailler. La voiture, c'était complètement différent à ce qui est Aston Martin et Mercedes. C'est là qu'on pensait que il va avoir des problèmes cette année, mais au contraire, c'était Mercedes et Aston Martin qui ont un peu plus la difficulté.
Oui, exactement. Je pense de ton point, Anna Maria. McLaren a réussi à mieux implanter ce moteur et surtout, comme Marc-André l'a dit, toutes les limitations en fait derrière. Pour ce moteur, le changement de Renault vers Mercedes, ça entraînait beaucoup de problèmes. Autant comme ça a été le cas entre passer de Mercedes à Honda aussi. Donc, c'est une belle évolution, je dois dire. Et un très bon week-end aussi pour McLaren dans l'ensemble. Parce que il y a McLaren qui est la seule écurie à avoir vu ses deux pilotes marquer des points dans les 3 premières courses de la saison. Mais aussi, petit aparté, Pato O'Ward qui a remporté la course numéro 2 au Texas Motor Speedway en IndyCar et qui va aller, à la fin de l'année, conduire la McLaren lors des essais des jeunes pilotes à Abu Dhabi. Alors, c'est un très suite à un pari fait par Zak Brown. Alors, c'est un très beau week-end pour McLaren. Sinon, toi, as-tu une contre-performance?
Mais... Ça me fait mal, mais Pour moi, la contre-performance, c'est Vettel. Oui, il est nouveau et il faut qu'il s'adapte, mais quand on voit, c'est 4e fois champion, on s'attendait à plus, qu'il donnait plus. Oui, c'est vrai, Stroll était pas, était difficile en qualification. Il y a eu comme le même problème de Ricciardo. Ils ont fait un tour, ils ont mis pas les bonnes pneus, ils ont mis moyen. Lorsque les circuits amélioraient et tout le monde mettait les rouges. Et c'est ça qui était comme un choix, je pense que c'est un choix d'équipe qui était mauvais. Mais il fait une mauvaise qualification, mais on s'attend toujours que Stroll est capable de remonter. Même s'il est resté 14e à la fin, je pense, il était capable d'aller chercher quelques places. C'est plus difficile parce que c'est plus serré. Mais au moins quand Stroll il était 10e, 8e, il réussit quand même à rentrer dans les points à la fin. Il tenait le coup. Mais par contre, à Vettel, il y avait là, bon, mais ce n'est pas les arrêts parce que je pensais que peut-être Stroll, c'est parce que les arrêts étaient trop longs, mais même pas, c'était les arrêts les plus courts aussi. C'est ça, et quand même, Vettel n'a pas réussi, il a pas réussi à garder la voiture au moins dans les points.
Ouais,
Par
exact.
contre, Fernando Alonso, il était difficile pour la qualification, mais il a quand même réussi à rentrer.
Oh oui, la Alpine ce week-end, je pense qu'on
Oui.
va en reparler un peu plus en détail, mais la
Ouais.
Alpine a été très bonne
Oui, il
tout au long du week-end.
Si c'était bon, et en plus, c'était comme on s'attendait que Portimao, ça avait été pas trop difficile pour Aston Martin, mais c'était dur. Mais oui, on sait que la voiture, ça va pas très bien, mais quand même, il a pas réussi cette fois-ci qui est sorti 10e, au moins rester là. Oui,
Effectivement.
ça c'est comme oui, c'est la 3e course, mais tous les points ça compte.
Ça compte dès le premier Grand Prix de
Ouais.
la saison. Sinon, as-tu un moment cocasse que tu as retenu?
Je sais pas, les moments cocasses, peut-être, il y a beaucoup de monde qui ne peut pas être d'accord avec moi, mais j'ai trouvé très cocasse le dépassement de. Et Mick Schumacher à la Tiffy.
Oh,
Parce
j'adore.
que je dis, mais oui, on est peut-être content parce que lui a réussi à dépasser quelqu'un, mais quand même, c'est la Tiffy, c'est pas le plus rapide, c'est toujours celui qui est derrière, qui se fait doubler pour tout le monde, mais quand même, lui était fier aussi, il fêtait ça, il dit, ok, tant mieux, mais.
Mais ça vous donne pas un petit flashback? Schumacher qui dépasse un Canadien dans une Williams?
Ah oui, c'est ça, mais quand même.
Oh, on est dans une autre histoire.
Ça c'est une
Oui, c'est
bah,
ça.
ça c'est une autre histoire, on va dire.
Ouais.
L'enjeu était un petit peu plus grand en 1997.
Et même
C'est
en
ça.
96 aussi.
Même en
Ouais.
96.
Moi aussi. Donc ça c'était plus en avant, maintenant c'est en
Mais
arrière.
écoute,
Mais
rendu
oui,
là, je
c'est
pense
trouvé
que
tout ça.
s'ils peuvent dépasser quelqu'un, l'enjeu est très grand, donc.
C'est ça.
Ouais.
On va le prendre comme ça.
Il y avait un autre qui ça fait ça me fait rire, mais après, parce que dans les moments, je n'ai pas trop remarqué, c'est Hamilton. Hamilton qui est Pérez y amène la
Ah
course,
oui.
mais lui, il était comme déconnecté et Pérez, il était comme tellement facile parce qu'il perdait beaucoup, il restait beaucoup de temps en piste. C'était pas trop difficile que Hamilton y passe, il demande des drapeaux bleus.
Oui.
Son ingénieur le dit, mais lui course aussi, c'est lui quand même.
C'est lui qui mène. Il pensait que c'était 2019 ou quelque chose du genre.
Ah, je ne sais pas, dans sa tête, et les rebouts, je dis ok, mais Hamilton, dans sa tête, c'est lui qui les met en danger, c'est les 33, pas les 11.
Ouais, exact. Ouais, mais je pense qu'il va s'habituer à voir. Je pense qu'il va s'habituer un peu plus à voir le 11 et le 33 en même temps. Donc,
Ouais.
et ce ne sera pas dans des conditions de drapeau bleu, là. Il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose de majeur qui arrive pour
Ouais.
avoir ces situations. Moi, mais ma performance du jour, je vais le donner à qui de droit? Au vainqueur du Grand Prix, Lewis Hamilton. Sa victoire. On va dire, il a. C'était pas une conduite du début dominante du début jusqu'à la fin. Il est allé chercher cette victoire. On pourrait dire à la dure parce que à la relance, il a été surpris par Max Verstappen et au 11e tour, il lui a rendu l'appareil en le dépassant au
Il a
premier virage.
profité de la petite erreur de Verstappen dans le
Aussi,
virage,
oui.
mais effectivement, tu sais, on parle souvent que pour gagner des championnats, il faut que tu sois premièrement solide, Grand Prix après Grand Prix, mais que tu as le droit à quelques petites erreurs. On parle habituellement d'une ou deux erreurs. Max Verstappen commence tranquillement à arriver à
À ce
son quota
stade-là.
d'erreurs. Vous allez dire qu'il est tôt en saison. Je pense que il va avoir appris de cette petite faute qui est minime. Là. On parle
C'est minime,
d'un
moi. Ouais.
survirage quelque peu. Il est allé. Mais en même temps, quand tu regardes ça égalise avec l'erreur qu'Hamilton a fait. Bon, Hamilton est revenu chercher sa position, vous allez dire, mais avec l'erreur qu'il a fait aussi en Italie. Donc, tu sais, pour l'instant, si on regarde d'un œil des fautes, c'est 1-1.
C'est
Donc,
ça, ouais.
c'est pas si pire.
C'est ça, c'est
Et c'est pour ça que ça va être aussi serré durant toute la saison. Je sens qu'ils vont, oui, s'interchanger les victoires, mais ils vont s'interchanger les petites erreurs qui vont faire la différence dans certains Grands Prix.
C'est ça, donc ça, comme on dit, c'est la dureté du mental qui est important. Sinon, moi, ma contre-performance, on n'a pas beaucoup parlé de cette écurie, en fait, mais contre-performance, je vais donner à Kimi Raikkonen son erreur. Il a avoué, mais disons que c'était une erreur de débutant, on va se dire.
Ah ouais.
Ouais, aller taper l'arrière, le pneu arrière de son coéquipier sur la longue ligne droite, alors que peut-être il y avait une petite chance d'aller chercher un point. D'ailleurs, l'écurie a été déboutée après l'appel déposé suite à la pénalité au Grand Prix d'Imola. Donc, il ne pourra pas reprendre les points qu'il avait obtenus à Imola. Mais cette erreur aurait peut-être pu donner une certaine lueur d'espoir à Alfa Romeo. Giovinazzi termine 12e. Je me demande où est-ce que Kimi Raikkonen aurait fini. Moi, je pense que ça aurait été soit 10 ou 11e à la limite. Mais disons que c'était pas la meilleure. C'était pas une erreur digne. Propre à Kimi Raikkonen, mais écoute, il en fait très très peu en plus, donc
Exact.
on
Exact. Puis, tiens, on comprend qu'il voulait aller chercher l'aspiration jusqu'au bout, mais à un moment donné, c'est le temps de dépasser.
ouais
oui faut pas trop coller.
Exactement. Donc, c'est ça. Ça a été plutôt une erreur de recrue de la part de Raikkonen. Sinon, le moment cocasse, et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vous n'avez pas remarqué que la F1 a pris du temps avant de donner le titre de pilote du jour.
Non.
Oui.
Vous savez pourquoi? Ben,
Et je ne sais pas, c'est ce que j'ai vu, c'est que je pense qu'il s'est pris le temps pour demander des potées parce que y essayait et je disais, mais la course était presque finie, il n'y avait pas les. Tu sais, les petites choses pour les
Les
votes.
votes. Ben, en
Ouais.
fait, apparemment, c'est que des fans auraient. J'ai dit au conditionnel, c'est rien de confirmé, mais des fans auraient tenté de voter en masse pour Nikita Mazepin.
Mon
Mais
coloc.
Yasu, mais
Mon
regarde,
coloc l'a
Yasu,
fait.
Oh my
moi aussi.
God!
Non, mais moi aussi, je l'ai fait pour elle.
Ok, donc. Ce qui était moi, conditionnel devient officiel.
Mais oui, mais. Mais c'est pas drôle. C'est pas drôle parce que on essaye. Et l'année passée, on a voté pour qui? C'est qui a, on a voté pour quelqu'un qui avait comme pas fini la course, même pas. Et on a réussi à les faire gagner les pilotes.
Mais avec Kubica, c'est sûr qu'on parlait avec Abdou sur notre conversation. On cherchait des underdogs, mais avaient été comme offert et on avait trouvé Kubica.
Il y avait Rio Arianto.
Rio Arianto.
Lors du premier Grand Prix où ça a été implanté en 2016. Ça,
mais
oui, c'était
mais moi, j'ai voté pour Mazepin parce que j'ai dit, il faisait la blague, il n'a pas accroché à personne.
Il n'a pas accroché à personne, mais il s'est pris un point de pénalité.
Mais oui, il s'est pris son point, mais il n'a pas comme accroché quelqu'un.
Il n'a peut-être pas fait de tête à queue non plus. Alors,
non, mais si, il n'a pas. Il n'y a pas fait la grosse gaffe. Je m'attendais qu'au moins on s'estica, je ne sais pas, mais rien. Mais oui, mais moi aussi, j'ai voté pour lui.
Oh my God. Je pense que c'est pas mal confirmé. C'est pour ça que Sergio Pérez a reçu le titre.
On peut passer du mode conditionnel à l'officialisation.
Mais ils ont changé. Mais oui, ils auraient gagné quand même.
Oh,
j'aurais aimé ça que le système d'infographie se trompe et donne le pilote du jeu à Mazepin. C'est un peu dommage.
Ouais.
Parce que ça aurait été vraiment cocasse.
Mais moi, ça me dit. C'est le moment de se débarrasser de ça parce que je trouve que c'est comme les power rankings dans les sports, c'est inutile.
Ben, c'est inutile,
mais en même temps.
Mais c'est pour ça que.
Ça
c'est pour ça qu'il a fait ça.
Pur bonheur comme ça de donner un pilote du jour à un pilote qui ne le mérite pas du tout.
Mais oui, c'est même pour ça qu'il vote toujours pour quelqu'un qui n'a pas fait grand-chose, parce que j'ai dit, c'est comme ça que j'aime pas ça. J'aime pas les pilotes de jour, parce que j'ai dit
mais,
non.
Avouons-le, je veux pas parler pour ma patrie, mais les fans de Verstappen sont très droits sur ça. Ils votent pour Verstappen quand ils le méritent, puis quand ils ne le méritent pas, ils donnent à un pilote qui le mérite.
Sauf une fois lors du Grand Prix des États-Unis 2016 où il a gagné le titre de pilote du jour en ayant abandonné à genre même pas un tiers de la course.
Mais cette fois-ci aussi, moi, j'ai voté pour lui parce que c'est ça.
Ben, lui, il avait tellement été efficace.
Ben oui. Oh mon dieu, je suis abasourdi. Vive les pilotes du jour, sarcastiquement.
Oui.
Bon.
On m'a fait gagner au moins une fois, ma sépi.
Ben, au moins, donnons-lui ce petit bonheur. Bon.
Oui, il y a des points déjà.
Ben, c'est ça, il a un point, on va pas lui enlever. En fait, la FIA ne lui enlèvera pas avant l'année
dans
prochaine.
Mois.
C'est ça.
Oui, il va rester.
Bon, on va reprendre un peu notre sérieux parce qu'on va parler de cette victoire de Lewis Hamilton combinée, en fait, au rythme de... Je vais vous poser cette question, en fait. Alors, comment résumer le week-end de ce Grand Prix de Portugal? Est-ce que ça a été... Mercedes qui a été, on devrait dire Lewis Hamilton qui a été dominant, ou bien Red Bull qui a juste manqué de rythme? Comment on pourrait résumer cela?
Vas-y Anna-Maria.
Ben, pour moi, c'est qu'on a sous-estimé Red Bull parce qu'ils ont commencé à dire qu'il est trop rapide, mais c'est pas vrai, il manque des choses comparé à Mercedes. Mercedes, c'est pas parce qu'il a manqué l'équipe, une équipe, ils ont travaillé très bien pour faire gagner Hamilton. Parce que Bottas, il a fait son travail. Par contre, Red Bull, il n'a pas réussi à faire son travail avec Perez.
Je suis désolé, Anna-Maria, je vais donner le droit de réplique à Marc-André parce que je pense qu'il va... Il est en désaccord.
Écoute, moi, je crois que on n'a pas surestimé la vitesse de Red Bull. Je crois que, malheureusement, au Portugal, c'était juste pas une recette gagnante pour cette voiture. On voyait, là, à la base, la Red Bull est un baquet qui est très instable. Et Verstappen l'a mentionné toute la fin de semaine, là, il n'y a pas eu de plaisir à conduire sur ce nouveau tarmac, sur cette voiture qui, dans le vent, semblait là, inconduisible. Et malgré tout, Red Bull s'en est bien tiré pendant la course. Et ça a été pas mal un week-end en deux temps. Ce que je veux dire par là, c'est que Verstappen a eu un peu d'espoir lors de l'essai 3. Il s'est terminé premier, on voyait que ça s'améliorait peut-être. Finalement, il est arrivé en qualification. Ça n'a pas été concluant pour lui. Même vraiment pas. Je pense qu'il s'attendait à avoir une bien meilleure position. Malheureusement, la voiture était vraiment très difficile à conduire. Et ce n'est pas la première fois. Et ce n'est vraiment pas la dernière fois qu'on va voir ça. Maintenant, ça va être à Red Bull et Verstappen de trouver des façons de travailler dans une fin de semaine comme celle-là qui semble plus difficile. Et puis, tu sais, je pense que si Verstappen n'avait pas eu cette petite erreur au début du Grand Prix, peut-être qu'on parle d'une victoire de Max Verstappen. Bon, il aurait pu arriver beaucoup de choses dans la course, mais tu sais, je trouve que ça a été en deux temps maintenant pour Bottas. Ça a été très difficile encore une fois pour lui, malheureusement. Perd sa position de tête. Voit un peu... comment je pourrais dire ça? T'sais, un bon coéquipier aurait réussi à tenir la position numéro 2, au moins un peu pour tenir Verstappen un peu plus loin. Mais en tout cas, t'sais, on peut parler... très longtemps de Bottas. Je pense qu'en fin de semaine, ça n'a pas été très concluant en course, malheureusement. Sa performance en qualification, c'est le seul à avoir réussi à augmenter, à améliorer son temps en Q3. En Q3, pardon. Donc, c'est quand même intéressant à mentionner. Pour lui.
Droit de réplique à Anna Maria.
Ben oui, mais Bottas, je pense qu'il fait très bien son travail. Je dis pas son travail comme lui y aimerait, mais au moins ça marche pour Mercedes. Parce que lui, oui, c'était pas si pire, mais quand même Hamilton a réussi à passer en avant. Lui a passé, il a réussi quand même à retenir un petit peu Verstappen pendant un bout, parce qu'ils l'ont laissé un peu plus long à l'arrêt. Et ils l'ont laissé un petit peu plus long, mais c'est ça, et je dis, c'est ça le problème de Red Bull. Il faut que Perez réussisse à faire qu'est-ce qu'il fait et Mercedes avec Bottas.
Ouais, je vais intervenir là-dessus parce que je pense, dans un premier temps, je pense que Bottas a tout simplement manqué de rythme et c'est pour ça qu'il a été complètement surpris de se faire dépasser par Lewis Hamilton, comme nous tous aussi.
Mais nous tous, on attendait la autre.
Hamilton,
il a réussi à passer avant.
Ouais, non, c'est ça. Mais je pense que Bottas a tout simplement été... il a manqué de rythme. Puis, quant à Perez, je pense que Red Bull a fait une petite erreur en essayant de prolonger son relais, alors que il aurait pu essayer de brouiller les cartes pour aller peut-être chercher Bottas.
Mais ça ne change pas grand-chose pour lui. C'est ça le problème. Pour Perez, ça ne change pas grand-chose parce que de toute façon, il restait quatrième. Mais tant que s'il est laissé en piste, tu imagines s'il arrive un Sisticard.
Ouais, c'est ça aussi.
Il gagnait beaucoup. Et essayant de le laisser plus longtemps, s'il y a quelque chose qui se passe, pour lui c'était gagnant, pour lui-même. Mais tant qu'il changeait, ça ne servait pas grand chose. Changer tout de suite, parce que c'est juste le laisser la place à Hamilton pour, pour faire ce qu'il s'est fait.
Malheureusement, pour Red Bull, la distance entre Perez et Hamilton pour comme ralentir Hamilton était trop grande.
Oui,
parce que, écoute, imaginez, peut-être là, la distance entre Perez et Hamilton n'est pas si grande. Bon, premièrement, Perez reste premier pendant quelques tours. Attendre de voir s'il va avoir un safety car, une voiture de sécurité. À ralentir Hamilton, attendre que Verstappen le rattrape un peu. Bon, c'est des scénarios, mais tu sais, il y avait une possibilité, si Hamilton était plus près de Perez, de faire son travail de deuxième coéquipier. Mais malheureusement, la distance était trop grande. Et effectivement, je pense que rendu là, Red Bull ont constaté que ça s'était perdu. La quatrième place, c'était la seule position possible pour Perez. Donc, pourquoi pas le garder en piste et tenter d'obtenir le point magique qui, finalement, a été assez intéressant. Je ne sais pas si on va en reparler, mais...
Ce petit point
magique-là donne beaucoup d'excitation en fin de course.
Ben, tu vois, justement, on va parler de ce point magique, celui du meilleur tour en course, parce que Max Verstappen était supposé l'avoir dans le tout dernier tour, mais il a appris en entrevue, dès qu'il est descendu de sa voiture, que son tour a été supprimé pour limite de vitesse, limite de piste au virage 14. Et ça a été donné à Valtteri Bottas. Et Red Bull, évidemment, n'était pas content. Helmut Marko et Christian Horner ont dit, mais la FIA, c'est incompréhensible. Il manque de constance. Dit, on a perdu la victoire, la pole position. Et maintenant, le meilleur tour. Donc, un tour du chapeau, enfin, en fin de compte. Et la FIA a dit, on a suivi les règles. Je vais dire quelque chose à Red Bull. Les limites de la piste ont été déterminées, premièrement, pour les virages 1, 4 et 15 jeudi. Ensuite, il y a eu une modification pour ajouter le virage 5. Je pense que c'était avant ou après la journée des essais du vendredi. Samedi matin, ils ont ajouté le virage 14 comme étant une limite de piste. Et ce sont des documents qui sont disponibles sur le site officiel de la Fédération internationale de l'automobile, disponibles à grand public. Et de surcroît, mais surtout le plus important, aux pilotes et aux écuries. Alors, de venir dire on a perdu les tours parce qu'on y est inconstant, je suis d'accord, le Grand Prix de Bahreïn, ça a été une jungle. Concernant les limites de la piste, les changements dernière minute. Mais depuis le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola, ils ont été clairs là-dessus. Au Portugal, ils l'ont été aussi. Puis au Grand Prix d'Espagne qui aura lieu ce week-end, il va y avoir les mêmes choses. Il y a eu des modifications aussi. Alors, personnellement, je vais citer une chanson de Justin Timberlake, Cry Me a River. Parce que sérieusement, ils étaient au courant, mais c'est juste, ils doivent contrôler les erreurs de leurs pilotes avant de venir se plaindre.
Mais je comprends, parce que si j'étais Red Bull, ceux qui ont perdu dans la première course, ils ne se font pas rembourser. Fait que c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a eu des changements, c'est lui qui... Avant, il était furtif, il n'était pas pénalisé. C'est lui qui, et après, ça ne se passe rien. Et je comprends, mais oui, les limites étaient données. Mais quand même, on vient de travailler très dur. Et oui, je comprends qu'il lâche les commentaires et qu'il va rappeler tout le temps la première course, comme on le fait chaque fois avec Vettel et le Grand Prix du Canada, parce que c'est des choses qui laissent des précédents. On a vu Hamilton faire son sortie à chaque passage, même que lui, il a décidé que c'est sa ligne de course.
Pendant, mais c'était légal.
Ben 9 tours, quelque chose comme ça. Et après, Verstappen y est passé. Il s'est fait pénaliser tout de suite. C'est ça qui dérange. Et après, ça fait mal. À chaque Grand Prix, ça va faire mal parce que chaque point, ça compte. Et même si ils ont les documents et tout, je pense que Helmut Marko, il va sortir ça à chaque fois. Je sens moi, que ça je ferais être... la même chose.
Et c'est le personnage aussi.
C'est le personnage.
Oui.
C'est le personnage. C'est aussi l'image de marque qui,
ouais.
qui prend de l'ampleur quand Helmut Marko vient parler. On parle de Red Bull et c'est payant aussi de ce côté-là. C'est, oui, les feuilles, les documents sont clairs. Maintenant, en course, c'est tout autre chose. Je serais curieux de voir si, bon, même si c'est pas des tours, des meilleurs tours, s'il y a des tours qui ont été annulés en raison de ce virage-là. Moi, c'est plutôt là, vraiment dans l'inconstance des décisions qui me dérange parce que c'est clair, le Verstappen est à l'extérieur. Ça, il n'y a pas de doute. On ne peut même pas en discuter. L'image est là, l'image est claire. Maintenant, on peut piquer une petite flèche à la FIA sur l'inconstance des décisions. On en parlait aussi avec la première course, mais on n'est pas obligé de revenir toujours sur celle-là, même si c'est très flagrant. Je pense que la frustration va être là tout au long de la saison parce que, écoute, oui, Verstappen a profité de la limite de la piste pour dépasser Hamilton dans ce virage-là, mais Hamilton a profité de cette limite pour s'avancer peut-être plus rapidement durant la course. Donc, tu sais, en quoi c'est une différence de le faire quand tu as un pilote à côté de toi ou pas?
Ben,
oui. Il y a l'autre petite chose que je voudrais dire, c'est que en plus, oui, il était clair que les tours rapides pendant la qualif, ça s'enlève. Mais je pense que c'est ça qui le dérange à Red Bull, c'est que ça n'était pas spécifié que pendant la course, parce qu'ils ont laissé, entendre que c'est à la troisième fois qui font l'avertissement. Si les pilotes, pendant la course, court-circuit par là, à la troisième fois, c'est le cas de Tsunoda, que l'ingénieur l'a averti, arrêtez de
pour
sauter.
Pour la deuxième course de suite.
Oui, qui arrêtait, il devait arrêter de sauter de piste parce qu'il avait déjà dépassé l'avertissement, c'est ça. Et dans le cas de Verstappen, ça tombait sur le tour rapide, c'est ça. Ça tombait.
Est-ce qu'il y en avait deux,
oui, est-ce qu'il y
en
avait déjà trois, c'est ça. Parce qu'il n'était pas averti pendant la course, et au moins là, il était clair, c'est pendant le tour rapide. Mais ils ont
moi,
dit pour la qualif. Mais ils
j'ai écouté la radio de Verstappen durant toute la course et je n'ai pas un souvenir d'entendre un ingénieur avertir Verstappen à propos de ça. Donc, c'est aussi là-dedans que j'étais comme. Écoute, peut-être que je l'ai manqué et ils l'ont averti. J'aurais aimé que la FIA sorte pour dire qu'il regarde. Verstappen, au tour 12, il y a eu un avertissement. Au tour 36, il y a eu un avertissement et on passe à autre chose. Son troisième tour est.
Mais la autre chose que je devrais, c'est que la FIA, c'était une constante, mais il faut laisser clair maintenant, il faut aussi laisser clair que tout, pendant les tours rapides, si tu les fais. En course, ça va t'enlever tout de suite. Parce que sinon, peut-être que Hamilton va le faire après, il ne se fait pas punir comme d'habitude.
Ben,
parce qu'il n'a pas fait trois fois, et lui, il va argumenter qu'il n'a pas fait trois fois.
Pendant que vous parliez, moi, je suis allé sur le site officiel de la FIA, et il y a les documents qui parlent des tours supprimés au virage 1, 4 et 14. Je vais vous donner la liste. Pour le virage 1, il y a eu 13 tours supprimés. Nikita Mazepin, Yuki Tsunoda, Mick Schumacher.
Mais pendant qualif?
Non, ça c'est pendant la course. Ça, c'est
non, parce que
course.
Pendant la course, il n'y a pas d'affaire de tout supprimer. C'est juste que la prochaine fois, il était averti et après, il va être pénalisé de 5 secondes ou 10 secondes. Ça dépend
la
décision.
Mais ça,
pas des tours supprimés.
Mais ça, c'est parce que ce sont des tours qui ont été. Ce sont probablement les tours rapides qui ont été enregistrés en faisant ces infractions. Donc, c'était les meilleurs tours. Comme par exemple, Mazepin a vu, de ce que je vois, deux fois son tour être supprimé pour avoir été au-delà des limites du virage 1. Tsunoda, Mick Schumacher deux fois. Gasly deux fois. Alonso et Vettel deux fois et Lance Stroll. Au virage 4, Tsunoda, Norris, Verstappen et Gasly. Et finalement, le virage 14, c'est Verstappen parce que c'était le tour le plus rapide. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a, les, justement la règle des trois avertissements, mais quand vous faites votre tour personnel le plus rapide, là, ils vont supprimer les... Là, ils vont supprimer les, le tour le plus rapide.
Donc, mais c'est encore joué sur les détails qui ne sont pas inscrits dans le document.
Oui, ben, c'est ça. Mais maintenant, s'il essaierait Helmut Marko,
il exige
que ça soit décrit. OK? Parce qu'on peut jouer avec les gris. Comme on dit, la lagune.
La zone grise, oui. Mais...
La zone grise, on peut jouer dans la zone grise.
Je pense que si Red Bull
Il était spécifié pour la qualif, parce que c'était même pas pour la pratique, même pas pour la course. Il était spécifié pour la qualif, pas pour le tour rapide.
Vas-y, Marc-André.
C'est juste pour faire l'avocat du diable. Si j'étais Red Bull, je me dirais, écoute, c'est pas Hamilton qui a eu le point.
C'est ça. C'est ça le plus important. C'est Hamilton. Si Hamilton n'a pas eu le point.
Parce que ça va tellement jouer sur les détails. Puis c'est un peu ça qui a enflammé les derniers tours. Parce que la course était finie. Il n'y avait plus d'enjeu. Et là, vous avez Hamilton qui fait le meilleur tour. Vous avez Bottas qui s'arrête pour aller chercher le meilleur tour. Et Verstappen qui constate que Bottas s'est arrêté. Il est trop long. Il est beaucoup trop loin. Nous aussi, on va s'arrêter, on va aller chercher le meilleur tour. C'est peut-être un petit détail qu'ils ont installé il y a 2 ans, ce petit point magique, mais c'est tellement excitant en fin de course, et surtout cette année où on ne sait pas ce qui va se passer. Ce point devient un peu même très important, et je ne parle même pas encore des fameux points qui vont être dans les courses qualificatives.
Je vais mettre les documents en question sur notre site bulletingp.com dans la section du podcast pour que vous puissiez vous...
Je vais aller les relire pour être sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a cette petite zone grise qui est...
J'ai hâte de voir
si c'est très bien inscrit que si vous faites votre meilleur tour personnel, votre tour est supprimé. En théorie, ce serait pratiquement comme une règle non écrite. Vous allez me dire, mais que ça soit écrit,
Si c'est écrit,
je vais être très honnête. Pour le prochain Grand Prix, je vais faire mon mea culpa, mais pour l'instant, j'ai un doute.
Donc, on va. Je pense qu'on s'est un peu trop enflammé sur les limites de la piste, encore une fois. Mais là, on va essayer. On va essayer de parler d'une écurie qui a très bien fait. On en a parlé un peu dans nos performances du jour. Alpine. Finalement, on voit le meilleur de Alpine. Est-ce que c'est le Grand Prix où on voit le vrai potentiel de cette voiture, ou bien est-ce que c'était juste un circuit spécifique? Parce que c'est un circuit spécifique.
Je pense que c'est de circonstances. J'ai l'impression. Cette voiture ne m'a pas montré grand-chose durant les premiers Grands Prix. Et je ne comprendrais pas pourquoi ça changerait jusqu'à la fin de la saison. Déjà que l'évolution chez Alpine va être très mince, voire pratiquement... pas là, donc j'ai hâte de voir ce que cette voiture va pouvoir donner jusqu'à la fin de la saison. Mais Ocon, honnêtement, je l'ai dit tantôt, je lui lance rarement des fleurs parce que ce n'est pas un pilote qui vient me chercher particulièrement. Je trouve qu'on l'a toujours mis sur un piédestal qu'il ne méritait pas, mais du moins, en fin de semaine, quelle course là. Cette petite bataille dès le départ avec Norris, waouh! Ça, c'est du Ocon qu'on aime voir mettre le pied à fond, ne pas lâcher. Puis Norris n'est pas un partenaire très facile non plus à dépasser, ou du moins à se battre contre. Et en fin de semaine, il l'a très bien fait. Donc, félicitations à lui. Il est allé chercher de gros points. Son coéquipier a fait de même. Et tu sais, au moins, tu sais, on pense souvent que, bon, cette voiture-là n'est peut-être pas la meilleure, mais au moins, quand elle a l'opportunité d'aller chercher des points, elle le fait.
Oui. Oh.
Et Anna Maria, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ton ami Fernando?
Fernando.
Non, mais je pense que c'est un circuit spécifique. C'est juste pour ça. Ça vient marcher là en Portugal, mais je ne m'attends pas à grand-chose. Après, on va voir qu'est-ce qui se passe. Mais quand même, pendant la qualif, ils n'ont pas montré une grande performance non plus. C'est ce qui me donne à croire qu'ils ont réussi là parce que les conditions y étaient pour la voiture. Mais on va voir ce qui se passe dans les autres circuits. Parce qu'après la qualif, Fernando n'était pas du tout content. Il était même fâché.
Ouais, je le comprends. Mais il a transformé sa frustration en quelque chose de très positif. Et ça lui a rapporté une 8e place. Surtout son 2e relais qui a été excellent. Alors, je crois que l'écurie a joué... a fait une très bonne stratégie. Alors, je pense que Ocon aussi, ça a été bien aussi dans les circonstances. Même s'il a perdu 2 places, je pense que il en a fait assez pour aller chercher des gros points, en fait. Sinon, s'il y a une écurie qui, à l'inverse, a été un peu décevant.
Et autre chose, là-dedans.
Oui, vas-y.
Et pour toute première fois, je pense. Rare fois, Fernando il se retrouve derrière son coéquipier.
Oui, oui, c'est vrai.
Il pas juste une course.
Oui, parce que je pense que c'était la première fois depuis le Grand Prix de Malaisie 2017 que Fernando Alonso a été battu par son coéquipier en qualification. Donc, ça faisait presque 4 ans, 3 ans et demi. Même
lui, il n'est pas vite à ça.
C'est ça. Alonso, c'est une bête en qualification, mais cette fin de semaine, Ocon l'a battu de plein droit avec sa 6e place en qualification. Donc, sinon, il y a une écurie qui a été un peu décevante, même 2 écuries italiennes qui ont été un peu décevantes. Ferrari avec Charles Leclerc, 7e, et Carlos Sainz, 11e, après s'être qualifié 5e. Moi, ce qui a été un peu surprenant, c'est de voir que Ferrari n'a pas... Parce que je pense que Sainz s'est arrêté après Leclerc, mais que l'écurie n'a pas utilisé les bonnes données de Leclerc pour faire en sorte que Sainz revienne avec des pneus durs au lieu de médium, parce que ça n'a pas fonctionné et l'Espagnol a été bouffé tout rond par ses adversaires, puis il ne marque pas de points.
Donc, mais c'est toujours la même chose. Ça ne change pas, s'il ne change pas la stratégie. En Ferrari, ça marque depuis longtemps. Il ne réussit pas à faire une bonne stratégie avec les pilotes. En plus, on revient à la FIA. Oui, Carlos y a bien sorti, mais je pense que commençant, il a fait un gros dépassement sur Pérez pour l'extérieur de la piste. Il n'était pas puni.
Ouais, mais la
FIA... Ouais, il n'était pas même pas regardé. Et c'est là qu'on dit... Ils sont toujours dans l'inconsistance.
Ouais, mais ça, ce sera un autre débat.
Mais je dis, on peut le prendre pour un incident de course, mais quand même, c'était pas juste un petit peu, hein, il était quand même long dehors. Il s'est pas demandé de retourner la place, rien.
Ouais, mais ça a été jugé légal par la FIA, mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est grave.
On revient toujours à la même chose. Quand Verstappen l'a fait, qui était juste au limite, il était pas si légal.
Ce qui est dommage avec Ferrari, c'est que la course était belle quand même pour Ferrari. À un moment, il était 5e, 6e, tout roulait. Même Sainz, qui, tu sais, pour un pilote qui vient d'arriver dans sa nouvelle voiture, on dirait qu'il a conduit cette Ferrari depuis longtemps et qu'il la connaît bien. Donc, c'est de voir que c'est vraiment sur le plan de la stratégie que rien n'a fonctionné, alors que, bon, l'an dernier, malheureusement, tu avais un combo. Tu avais des mauvaises performances de la voiture et des mauvaises stratégies. Là, cette année, tu as une performance de la voiture qui est plus que respectable.
Ouais.
Et encore là, tu arrives avec des décisions qui peuvent être mises en question, même doivent être mis en question parce qu'on voit les positions des Ferrari, surtout celle de Sainz, qui, honnêtement, c'est dommage pour lui parce qu'il a bien travaillé durant la fin de semaine. Il est allé chercher des belles positions, il est allé chercher des beaux dépassements. Et le tout est un peu gâché par une décision des ingénieurs, des directeurs de course.
Mais
c'est dommage.
Ça qui me dérange, j'arrête pas de le dire, c'est que c'est lui qui était le stratège l'année passée, Iñaki Rueda. C'est un Espagnol en plus. Et il faisait des mauvaises stratégies tout le temps.
Mm-hmm.
Il était promu. Maintenant, lui, c'est l'ingénieur de course.
L'ingénieur de course de Sainz?
Oui, c'est l'ingénieur de course. Qu'est-ce que... regarde, il était mauvais dans la stratégie. Et en plus, il gagne une promotion.
Bah, c'est là qu'on
dit, quand je parle avec l'espagnol, on dit, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est la même personne qui fait les mauvais choix.
À la défense de Ferrari, je peux dire que c'est leur première erreur de la saison. Je pourrais dire que c'est leur première erreur de la saison. Et on sait que l'année dernière, déjà après trois courses, c'était déjà le feu dans la poubelle chez Ferrari. Alors, c'est une belle avancée de la part de l'écurie. Mais je pense que ça a été... je pense qu'ils vont grandir de cette... mauvaise expérience à Portimao.
Ils vont... ça fait longtemps qu'on attend qu'ils grandissent après les erreurs.
Stratégiquement.
Ouais,
mais à la défense de Ferrari...
Non, t'as pas le droit à la défense.
C'est difficile depuis que j'écoute la Formule 1.
Je sais, mais... Au moins... il y a eu une erreur. Une. Ça aurait pu être comme en 2020, puis comme on dit, ça aurait été déjà l'incendie dans la
piste. Et trois courses. Il manque beaucoup de erreurs pour faire.
Ouais, mais écoute, si je dois dire, l'année dernière, t'as un pilote qui fait un tête-à-queue dans la première course. Ensuite, lors de la deuxième, c'est une collision. Et lors de la troisième, en Hongrie, ils étaient juste pas là, en fait. Alors, on n'a rien entendu. Non, Marianne, ne t'en fais pas.
c'est encore le même combat pour Ferrari. Puis, on regarde ça. Au moins, ils ne sont pas dans un combat pour une position importante comme la position et le titre. Au moins, on peut leur donner ça. Présentement, si... peuvent faire des erreurs, c'est cette année.
Ben oui, mais...
parce qu'on sait pas ce que 2022 va
leur donner. Réserver, c'est ça.
Et mais en plus...
eux ne le savent pas non plus, donc... c'est peut-être le temps, justement, de se créer une identité, une approche. On parle souvent là, de l'importance, je vais parler d'une petite référence hockey, là, l'importance de la culture. La culture dans une équipe, c'est important. C'est peut-être le moment de le faire chez Ferrari, de lâcher le... on est toujours strict, on fait pas de blagues, c'est peut-être le moment de lâcher l'os un peu.
Ouais.
Peut-être que dans les décisions stratégiques, ça va paraître aussi que tout est plus lisse, tout est moins stressé. Bon, vous allez me dire, il y a l'histoire derrière tout ça. À un moment donné, l'histoire... on doit regarder le présent, et le présent aujourd'hui est pas si beau pour Ferrari. C'est peut-être le temps de changer quelques petits trucs qui vont faire en sorte que l'écurie va avancer. Puis après ça, quand ça va devenir plus positif, on va pouvoir regarder l'histoire puis dire, bon, on a eu ça d'extraordinaire. Cette période-là, entre 2019 et 2018, 2019, 2020, peut-être moins beau, mais on est rendu ailleurs.
Exact.
Ça, je leur souhaite, parce que c'est important pour une compagnie aussi belle et une aussi belle écurie.
Oui, l'année passée, il y avait les grosses... il pouvait se cacher derrière Vettel. Cette année, il n'y a pas Vettel, fait que ça commence.
Carlos Sainz a fait de bonnes performances, donc mais on ne peut pas dire, Carlos Sainz n'est pas trop habitué dans la voiture.
Mais oui, c'est ça. Donc, moi, cette année...
il a montré qu'il était capable de conduire cette voiture. Donc.
Oui.
Exactement.
Il y en a voué qu'ils ont commis une erreur dans la stratégie de Carlos, mais... C'est ça, ils font ça depuis longtemps.
Ouais. C'est une petite métaphore.
Il n'y a la pas bouée, d'excuse pour moi, il n'y a pas d'excuse.
Je vais faire une petite métaphore, là. La bouée est là. Il faut juste qu'ils la prennent et qu'ils ne se noient pas.
C'est ça. Et à l'inverse, il y a AlphaTauri qui sort de Portimao, qui est sorti de Portimao avec un point, la dixième place de Pierre Gasly, mais mon Dieu que ça a été un peu compliqué. Oui, Gasly s'est battu assez fort pour obtenir ce point, mais c'est encore loin de ce qu'on espérait pour l'écurie. Yuki Tsunoda a été, on va le dire, décevant lors de ce Grand Prix, même inexistant. Je sais que c'est sa première fois à Portimao, donc oui, c'est un apprentissage.
Il y a une patience dans son cas aussi à avoir, mais effectivement, je pense qu'on s'attendait peut-être mieux. Mais en même temps, quand tu regardes le tout, Pierre Gasly se qualifie 9e, ça a été difficile en qualification pour eux.
Mm-hmm.
Ils ont la 10e position, ils ont un point. Tantôt, on parlait qu'Alpine doit profiter de toutes leurs chances pour avoir des points. Ben, AlphaTauri, c'est un peu dans la même optique.
Oui.
Dans le sens où, quand ils ont l'occasion de faire des points, ils doivent réussir. Et ils l'ont fait. La 10e position aurait pu très bien appartenir à Sainz et Ferrari. Mais qui a réussi à la fin à l'obtenir, c'est Pierre Gasly.
C'est
une belle conduite encore pour lui. Honnêtement, on n'arrête pas de le vanter, mais il le mérite à chaque fois.
Définitivement.
Ça aurait pu être mieux pour AlphaTauri, mais ils ont réussi encore une fois à sauver les meubles, comme à Imola. J'ai eu un blanc de mémoire sur le dernier Grand Prix, comme à Imola. Une cinquième... Gasly a terminé à Imola.
Septième.
Il avait débuté cinquième, donc ils ont sauvé les meubles là. Au Portugal, ils ont encore sauvé les meubles. Bon, Yuki Tsunoda, je pense que c'est de l'habitude. Tu vois qu'il y a du talent, le jeune, et tu vois qu'il y a du potentiel. Il faut juste être patient pour qu'il apprenne les petits détails que la Formule 1 offre. Donc, j'ai hâte de voir. Écoute, la saison est là pour apprendre. Et il va devoir travailler un peu les limites de piste, avouons-le.
Ah mais... oui, ça c'est quelque chose qu'il doit travailler. Anna Maria, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à propos d'AlphaTauri?
Non, mais que ça va très bien, mais j'aimais ça beaucoup pendant la course quand j'ai vu la bataille. Gasly, Ocon, moi, parce que. Les deux, et à chaque fois qu'ils se rencontrent, c'est dur.
Ouais, c'est maladroit parce que...
Ça se bat.
Parce que pour mettre en contexte, Ocon et Gasly, c'était de très bons amis, mais un incident en karting a, disons, fracassé leur amitié. Puis,
ça fait longtemps qu'ils ne se parlent
plus. Ça fait longtemps qu'ils ne se parlent plus. Ben, maintenant qu'ils sont en Formule 1, ils se parlent, mais plus autant comme... amis, on pourrait dire. Donc, à chaque fois qu'il y a.
Ocon a l'habitude aussi de se mettre dans des mauvaises positions avec quelques pilotes.
Ah, ben, tu vois, ça pourrait être bon pour Netflix.
Écoute, c'est clair. S'il y a de la petite friction, ils vont en profiter. Imaginez Netflix au Brésil 2019.
On va parler d'une écurie qui en a vraiment arraché ce week-end. Williams, George Russell qui s'est qualifié 11e. Ça a été un des meilleurs résultats en qualification pour Williams depuis un bout.
Avec la 10e position de Sergio.
Ben, disons...
C'est d'une 10e position, je me souviens plus où.
Ben, c'était Stroll en 2018 en Italie, mais je pense qu'il s'était qualifié genre 8e.
C'est sûr.
Mais ça, c'était...
Je vais aller vérifier.
Ouais,
je vais aller vérifier.
Mais disons que Williams s'était très bien qualifié, passé proche d'atteindre la Q3, mais en course, ça a été complètement difficile. Russell a fini bien derrière. Même chose pour Latifi, pour qui on l'a vu se battre contre Mick Schumacher, duel qu'il a
Mais
perdu.
il a fait un bel dépassement à Russell aussi, Latifi, hein. On
Ouais.
n'a pas beaucoup montré ça, mais quand même, ça fait des chocs.
Ouais, au moins de voir Latifi se battre contre Russell. Mais à la défense de Russell, ben, il y a eu un contact avec Sébastien Vettel, ce qui a endommagé un peu la voiture et disons que sa voiture était devenue inconduisible tout le long, donc il a perdu du terrain. Autre écurie aussi, disons, ça a été une course à demi-teinte. Haas, on a vu ben, Nikita Mazepin, on n'a pas besoin on en a parlé. Il a fini à 1 minute de Mick Schumacher, en plus de se prendre un point de
Ouch.
pénalité pour avoir bloqué Sergio Perez, mais au moins il s'est senti mal de l'avoir bloqué. À l'inverse, Mick Schumacher s'est vraiment tenu propre, comme on l'a dit, ben, à 1 minute de son propre coéquipier, mais a réussi à offrir une belle bataille avec Nicolas Latifi. Donc, ça au moins, je sais que c'est rien. C'est pour la 17e place, mais pour une recrue, ça
Chaque
donne.
petit combat est important, on va se
Exactement.
dire.
Mais oui, c'est bien et je pense que la seule chose que des fois, je parle trop, c'est sûr, mais il devrait donner le même traitement à tous les pilotes. Parce que regarde, si Stroll fait un podium pendant sa première, quand il est rentré en Formule 1, c'est rien. Hein? Mais j'étais comme, what? Il y avait des gros titres comme quoi en motosport. Mick a fait un dépassement à Latifi. Et moi, j'étais comme, ok.
Ben écoute, c'est grand, c'est grandiose.
Ouais, parce
Mais
qu'on.
oui, mais c'est ça. En tout cas, il
Mais écoute,
a
c'est.
fait fermer les
circonstances.
micros.
C'est grandiose parce que c'est un Schumacher. Mais en même temps, tu sais, c'est un dépassement qui était banal, qui était.
Mais oui, c'est ça. Il y a plein de pilotes qui ont fait des dépassements pendant la course. C'est ça. Mais on donne toutes les Netflix.
Ouais, mais tu vois, mais vous voyez, c'est parce que on sait que la Haas est, je vais pas dire un
Mais
tracteur.
William, c'est William d'avant. OK, mais. Mais il n'y a pas
C'est pas une
dépassé.
alphatori, c'est
Mais
plus
c'est
dans ce
ça.
sens-là. T'sais,
Ouais. Mais oui, c'est ça.
est-ce que la différence entre la Haas, elle est
Et
là,
la
on va
William
se
de
dire, elle est là,
Latifi, c'est
mais
pas trop grave.
et surtout la Williams de Latifi. Sans rien enlever à notre Canadien,
Mais
c'est
oui.
difficile. C'est.
Au
C'est ça.
moins,
Donc.
je trouve que Mick, c'est un bon gars quand même. Il était tout
Oui.
content. Il fêtait ça comme si c'était une victoire, mais c'est ça.
Puis c'est un pilote qui a une belle attitude. Il
Mais oui,
mérite ce
c'est
qui lui arrive.
ça. Ça ne l'aime rien non plus, mais
Il
c'est
faut
juste
pas trop.
qu'il n'y a pas besoin de faire ça.
Et il a.
Fait-on une bonne performance quand ça va arriver
Ouais.
pour de vrai. J'ai juste
Oui, c'est ça.
l'impression que c'était un feu qui aurait pas dû partir.
C'est un
Je
bon
pense que
début, on va
les
dire.
milieux, ils forcent les.
Ben, c'est ça, c'est parce que c'est une recrue et son ingénieur de piste, Gary Cannon, lui donne le plus d'encouragement possible pour.
Correct.
Et c'est bien correct parce
Et c'est
que
normal même.
c'est ça, c'est normal. C'est sûr que oui, c'est un Schumacher parce que c'est le fils d'eux et qu'on met l'accent sur ce nom de famille. Mais dans les circonstances, c'est une as qui n'est pas destinée à être dans les points.
Et c'est en fait,
Moi, je comprends
c'est.
bien. Oui, je comprends, mais c'est Latifi avec Williams.
Oui.
En fait, Abdou,
C'est ça, c'est.
je vais reformuler ta phrase. C'est une ase qui n'est pas destinée à faire des dépassements.
Ouais, je
C'est
n'aurais
ça
pas dû.
l'exploit, en fait.
C'est ça. C'est ça. Je pense que c'est destiné à ça, en fait. Alors, je pense que c'est vraiment destiné à ça, en fait. Alors, ouais, je pense qu'on a fait le tour du Grand Prix du
Moi.
Portugal. Et avant de se quitter, les amis, une petite nouvelle qu'on a reçue ce matin, au moment d'enregistrer, Romain Grosjean qui finalement obtient son test chez Mercedes, il va l'avoir deux fois, un avant et pendant le Grand Prix de France à Paul Ricard. Alors, ça va être dans la Mercedes W10, celle qu'une certaine écurie a copiée, donc la Mercedes 2019. Petite réaction sur ce test.
C'est sympathique.
Moi.
Si Toto Wolff avait promis à Grosjean que ça se ferait, en plus il va le faire sur son territoire, dans son pays, ça vient boucler la boucle que malheureusement Grosjean n'avait pas pu faire avec la Formule 1 en raison de sa blessure et de son accident à Bahreïn. Donc, tu sais, on ne peut qu'être heureux pour lui et pour la situation en tant que telle. Ça va faire les gros titres. On va le voir partout et c'est correct. Je pense que Grosjean, en général, a eu une belle carrière en Formule 1. On peut lui reprocher beaucoup de choses, des accidents un peu farfelus, bien sûr, mais malgré tout, ça a été un bon pilote. Ça a été un pilote respecté qui a réussi à faire de grandes choses sans réussir à les atteindre, peut-être ce qu'il aurait voulu, bien sûr, et ça, c'est un titre ou du moins plusieurs victoires. Mais du moins, non, je suis content pour Grosjean. Écoute, j'ai réussi à faire une petite dague à mon coloc aussi en disant que Grosjean prenait le baquet de Bottas, puis je lui ai montré l'image, il m'a cru pendant quelques secondes.
Ah,
Donc.
mais attends, ce qui est drôle dans tout ça, c'est que il a la combinaison de Stoffel
Oui.
Vandoorne.
Oui.
Ah, c'est vrai.
Oui.
Ils n'ont pas changé le petit drapeau, ouais. En tout cas.
Ouais. Donc,
J'avais pas
ça veut
remarqué.
dire que Grosjean fit dans la combinaison de Vandoorne, c'est confirmé. Donc, si
Ouais.
jamais il arrivait quoi que ce soit, ben, il y a
Il va
quoi que ce
pouvoir aller
soit.
conduire une petite formule électrique. C'est
Ouais,
ce qu'on me dit.
exactement. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, en endurance, parce que c'était la première course de la saison à Spa ce week-end, oui, bah oui, j'ai regardé presque les 6 heures
En
de
parlant de la
Spa
Belgique.
de la Belgique, et c'est Toyota, la Toyota numéro 8, qui a gagné devant une
Ah!
Alpine.
Pour vrai?
Eh oui,
Il
je
a
suis
été le deuxième.
surpris. Toyota y a gagné.
Ben oui, Toyota a gagné encore une fois.
Grosse surprise.
Ben, disons, c'est une surprise dans le sens que c'est Toyota qui
C'est la
gagne.
8, hein?
Ben oui, mais non seulement.
D'habitude, c'est la 7.
Ben, normalement, c'est la fête, mais tu vois, t'as trois anciens pilotes de. T'as trois anciens pilotes de Formule 1 qui ont gagné. Donc, dans la Toyota numéro 8, il y avait Braden Hartley, Kazuki Nakajima et Sébastien Buemi. Alors, une belle victoire en général dans la hypercar. Et même parlant d'endurance, ben, Porsche et Penske vont collaborer pour justement participer au championnat du monde d'endurance ainsi que la IMSA. Donc, c'est quand même une grosse nouvelle où tu as deux grandes compagnies, ben, une compagnie sportive et la marque Porsche en tant que telle, qui font leur retour en endurance. Alors, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner comme projet. Sinon, est-ce que vous aviez d'autres trucs à ajouter?
Suivez bien les prochaines semaines avec Toto Wolff dernièrement qui tente de mettre sur la table qu'une possible entente entre Volkswagen et Red Bull serait possible en 2025.
Mais c'est loin encore.
Et il me fait rire ce Toto des fois.
Mais lui, il cherche l'attention tout le temps. Hein? Lui, il faut lui donner l'attention.
C'est constamment.
C'est lui et Hamilton, ils ont besoin de l'attention tout le temps.
Bon, je pense pas que
Bah, ouais.
je pense pas que Volkswagen va vraiment accepter
Moi non plus.
d'aller en Formule 1.
C'est...
Je pense qu'ils ont fait leur ils ont fait le passage vers l'électrique. Je pense qu'ils se retirent
C'est
graduellement de
une
la course
direction qui
automobile.
est claire, là. C'est pas aux États-Unis, je crois, qu'ils changent même leur nom pour Volkswagen. Est-ce que c'était vrai, ça?
Ben, je pense que c'était plus
Non.
un poisson d'avril.
Je pense que c'était
T'as-tu
une petite. Oui, c'était comme petit ballon qu'ils ont laissé échapper.
Ok,
Comme quoi, ils changeaient
moi
les
puis le
noms.
1er avril.
Et après, on dit que non, que c'était pas vrai, que
Ok.
blablabla. Ils ont
Mais tu vois,
essayé
je me
quelque
suis pas
chose.
informé, c'était... Je voulais justement avoir une confirmation si c'était vrai ou vrai, tu vois.
Non, non, c'était
Mais tu
vrai,
le...
mais c'était
leur
pas
passage
vrai
électrique est bien
aussi.
clair, donc
Ah oui.
ça... Ça
Et
serait
par
très contradictoire de faire un mouvement comme ça.
Et c'est vrai, parlant d'électrique, ben ce week-end, la Formule électrique revient à Monaco, mais cette fois-ci
Monaco, oui.
sur le circuit normal de Monte-Carlo, avec évidemment quelques modifications pour accommoder les 24 monoplaces. Donc ça va être ce samedi dans les rues de la Principauté. Donc ça va être à
On se croise
surveiller.
les doigts pour que les voitures se rendent jusqu'à la fin.
Oh, il devrait
Oui,
en passer. Il devrait en
mais
passer.
ils ont déjà coursé là-bas. C'est juste qu'ils coupent un petit peu le circuit pour
Ouais.
que. Ben, je comprends qu'est-ce qu'il veut dire, Marc-André.
Ouais, après.
Mais d'habitude, il tient le coup à Monaco. Mais c'est juste que
Mais
Valencia
non, le,
était.
tout devrait bien se passer. Même,
Ouais.
je vais m'asseoir, je vais l'écouter, honnêtement. Ça, depuis le début de la saison, j'ai jamais eu un grand intérêt pour cette compétition, mais on dirait que, bon, il y a certains pilotes qui m'intéressent un petit peu plus cette année, donc je regarde un peu et c'est quand même plaisant.
Mais je regarde depuis longtemps, mais ce que j'aime de plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne sait pas c'est qui va gagner.
C'est ça. On ne sait pas
Tout le monde
qui.
a la chance, à peu près tout le monde a la chance.
Exactement, avec le système de qualification et tout,
Parce que c'est
alors.
les mêmes motos à peu près pour tout le monde, fait que tout le monde a à peu près la chance de faire quelque chose.
Exactement. Et évidemment, la course sera diffusée samedi sur les ondes de TVA Sport. Donc, si vous voulez regarder les formules électriques se balader dans les rues de la Principauté, ça va être diffusé en direct dès 9h30 pour la course avec l'émission d'avant-course elle-même et la qualification dès 6h. Donc, préparez votre café pour ce beau samedi matin de course avec évidemment le
Ça
Grand
va être
Prix, les qualifs
difficile.
du Grand Prix d'Espagne sur les ondes de RDS dès 8h30, si je ne me
Trente,
trompe
ouais,
pas.
exact.
Alors, c'est ce
Ouais.
qui complète. Ah oui, puis j'ai oublié aussi. On revient avec notre formule d'après-course ce dimanche. Donc, tout de suite, tout de suite après le Grand Prix d'Espagne, on va être en mode après-course. Donc, ça va être disponible sur Facebook, sur Twitter. Puis, nouveauté maintenant, ça va être sur Twitch. Donc, aller transformer mon compte test Twitch que j'ai créé pour le transformer en compte Twitch du bulletin GP. Alors, c'est ce qui complète cet épisode. Si vous voulez écouter nos anciens épisodes ainsi que celui que vous écoutez en ce moment, c'est disponible sur notre site bulletingp.com ainsi que sur toutes vos plateformes de podcast préférées, donc Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Stitcher, TuneIn, n'importe où. Et aussi, nous sommes disponibles sur Facebook, Twitter et Instagram. Oui, j'ai recommencé à utiliser Instagram, @lebulletingp. Donc, n'hésitez pas à venir échanger avec nous même pendant le Grand Prix. Donc, on est revenu de notre boycottage et on va parler beaucoup de courses automobiles au cours des prochains jours. Alors, Anna Maria, Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là.
Merci à toi,
Merci à
c'est
toi.
toujours un plaisir.
Exactement, on a eu beaucoup de fun, beaucoup de débats. Ça a été
C'est
houleux.
toi.
Alors, on va espérer garder le cap. Mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP et je vous souhaite une excellente soirée ou une bonne journée, peu importe où vous êtes. Soyez prudents. Alors, à la prochaine.
Salut à tous.